Radio Météo. Dométéo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Bonjour frère Edouard.
Bonjour frère Louis.
Nous sommes dans la très belle expression de l'église Corps du Christ qui commençait au numéro 787 du catéchisme de l'église catholique. On voit que c'est pas une invention postérieure de l'église qui dit « Ah bah oui, on voit, on constate qu'on est vraiment un corps du Christ ». Jésus a voulu nous associer à sa vie, a voulu vraiment nous donner part à ses joies, à sa mission. On a plusieurs expressions au numéro 787 des versets bibliques qui rappellent que Jésus a voulu une grande communion avec nous. « Demeurez en moi comme moi en vous, je suis le cep, vous êtes les sarments, qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui ». Il y a un vrai désir du Christ de nous associer à lui, à sa vie, à sa résurrection, à son ascension aussi. Mais j'ai l'impression, on lit ça au numéro 790 dans lequel nous étions la dernière fois, que nous sommes aussi unis au Christ souffrant. Et ça, c'est peut-être moins réjouissant. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de si on se dit « j'ai envie d'être membre et corps du Christ », est-ce qu'il faut s'inquiéter du fait qu'on va aussi participer aux souffrances du Christ?
Alors, c'est vrai que saint Paul est très net là-dessus, qu'il ne peut, il le dit sans cesse, qu'il participe aux souffrances du Christ, et c'est dans la mesure où il participe aux souffrances du Christ qu'il participe aussi à sa résurrection. Par exemple, dans Philippiens, dans cette grande épître qu'il a donnée en prison, où... lorsque, à la fin des Galates aussi, il dit « Je porte en ma chair les marques de Jésus ». Tout du long, saint Paul rappelle effectivement cette dimension souffrante de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il est vrai que le baptême, lorsque nous disons que nous sommes plongés dans la mort du Christ, c'est sa passion. Et donc il y a bien cette dimension souffrante. Cependant, cela ne veut pas dire que d'emblée... Jésus, pédagogiquement, va nous mettre au sommet de la souffrance. Il nous la donne selon notre capacité de la recevoir, selon les étapes de notre vie. Et nous savons bien qu'au moment du détachement de notre âme, de notre corps, ben, il y aura nécessairement quelque chose qui sera de l'ordre de la souffrance. Donc notre propre mort physique fait partie du chemin que nous savons bien que nous avons à emprunter. On ne sera pas, sauf si Jésus revient dans la gloire avant la fin de notre vie, et nous serons, comme dit saint Paul, emportés sur les nuages, comme cette belle image de la première épître aux Thessaloniciens, tous nous passons par des souffrances, des détachements, et cela nous permet, en les offrant, de nous associer à la souffrance du Christ. Saint Paul disait « Je complète en ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ pour son Église » dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 1. Donc il y a vraiment cette dimension souffrante. Il ne faut pas la surinvestir en la provoquant nous-mêmes. Nous ne sommes pas des personnes qui seraient des sadiques par rapport à une sorte d'auto-flagellation, de pensée noire sur la nécessité de souffrir. Mais quand cela advient, nous avons la croix du Christ qui nous permet d'offrir ce que nous vivons. Et cela vient toujours assez vite dans la vie pour que nous n'ayons pas besoin de le provoquer. Je crois qu'il faut rester très humble par rapport à ces capacités que nous aurions de souffrir. Jésus ne nous le donne que quand nous sommes capables de le faire.
Il faut arriver à vivre ça dans une relation très amoureuse, c'est se dire mon époux, cette tête à laquelle j'appartiens a vécu cette souffrance avec des raisons, et je veux la vivre avec lui et y participer avec lui.
Et y participer avec lui, et chacun selon ses capacités, comme dit saint Paul, chacun selon les capacités de sa foi, Et certains peuvent plus, je pense à tous les stigmatisés de l'histoire de l'Église, Saint François d'Assise, le Padre Pio et tant d'autres femmes qui ont voulu vivre ce qu'on appelle les marques de Jésus, les stigmates, comme dit Saint Paul à la fin de l'Épître aux Galates dont je parlais il y a un instant. Eh bien, ce sont des marques d'amour. Et souvent, d'ailleurs, elles disparaissent juste avant la mort corporelle. Par exemple, pour Padre Pio, il a été constaté stigmatisé par des médecins de haute qualité. Et c'était très réel, mais juste avant sa mort, elles ont disparu. Pourquoi ? Parce que ce sont des marques d'amour. Et d'une certaine manière, ça n'était plus nécessaire au moment où le baiser final allait être donné, la séparation de l'âme et du corps.
Oui, oui. Alors je relis, pour conclure cette dimension-là, un extrait qui est présenté au numéro 790 de Lumen Gentium. Dans ce corps, la vie du Christ se répand à travers les croyants que les sacrements, donc baptême, confirmation, d'une manière mystérieuse et réelle, unissent au Christ souffrant et glorifié. Alors, au 791, le catéchisme nous rappelle quelque chose. Il ne faut pas imaginer qu'on est membre du corps et que à cause de cette intégration au corps du Christ, notre personnalité disparaît. Il est dit que l'unité du corps n'abolit pas la diversité des membres. Tu peux approfondir ce point, frère Édouard ?
Oui, là, le langage de Lumen Gentium est un langage pastoral et de fait, on souffre un petit peu en français du fait que désormais le mot diversité est pratiquement un synonyme de différence. Alors que dans les langues plus anciennes, comme le latin et le grec, on faisait la différence entre diversité et différence. Par exemple, il notait avec détermination qu'on ne pouvait pas confondre les deux. Pourquoi ? Parce que divers était quelque chose d'absolu, alors que différence était quelque chose de seulement relatif. Je vous redis par exemple, divers se dit absolument, mais tout ce qu'on affirme différer diffère par quelque chose. Donc là, une différence permettait de conserver en même temps quelque chose qui nous unifiait, alors que divers étant absolu, c'était des réalités complètement séparées. Et du coup, nous n'avons plus ce langage aussi fin pour bien distinguer les choses. Le mot divers a fini par prendre la connotation seulement de différence. Et il faudrait plutôt utiliser, comme le synode de 1985, le mot pluriformité légitime. C'est ça ce qui a été retenu dans le synode de 1985. Nous avons entre nous des pluriformités légitimes. Et on pense aux rites de liturgie, on pense aux traditions particulières des instituts de vie religieuse, on pense à la possibilité pour des familles d'avoir de nombreux enfants, ou au contraire de n'avoir que peu d'enfants, etc. Tout ça, ce sont des pluriformités légitime s'il n'y a pas une règle qui dirait il faut absolument que les familles catholiques aient tant d'enfants, etc. La responsabilité des parents leur permet de choisir ce qu'ils veulent dans une fécondité responsable. Donc la pluriformité légitime est immense. Hein, et nous pensons, nous qui appartenons à des familles religieuses, qu'elles quantité de familles religieuses, il peut exister dans l'histoire de l'Église catholique. C'est extraordinaire, à tel point qu'on disait avec humour que même le bon Dieu ignorait, parmi les trois choses qu'il ignorait, le nombre d'instituts féminins, tellement il y en a. Hein. Et cela, cette formule, donc, nous montre bien qu'il s'agit de dons variés, Je crois que le mot varié est un bon synonyme de différence et que notre pluriformité légitime des membres nous permet d'exercer des dons variés pour le bien de l'Église. Pourquoi ? Parce que Jésus est Dieu et nous touchons par lui, par sa personne, en lui appartenant à l'infini. C'est pour cela qu'il y a tant de dons et tant de possibilités d'exprimer ces dons qui nous viennent de Dieu. Jésus, au ciel et dans l'Esprit, nous donne sans cesse à avoir part à ces dons de l'Esprit pour que nous puissions vivre cette communion avec lui.
Donc on peut être infirmier au chevet d'un malade, on peut être prêtre missionnaire en Inde ou un enfant jouant à l'école et membre à part entière du corps du Christ.
Tout à fait, tout à fait. Il n'y a pas d'opposition, il y a au contraire cette pluriformité légitime qui fait que, puisque nous sommes reliés au Christ par le baptême et les sacrements, eh bien, nous lui appartenons et nous sommes absolument certains que là où est l'Église, là fleurit le Saint-Esprit, là où est l'Esprit, l'Église est là et toute grâce, comme disait saint Irénée.
Oui, oui. Et est-ce que il semble même que, on lit ça un peu plus loin, que si un membre souffre, tous les autres membres le ressentent. Donc ça veut dire que quand quelqu'un est en train de souffrir dans sa chambre de manière éloignée, inconnue de tous, mais qu'il est chrétien, il est porté dans une communion avec tous les autres membres de cette Église, corps du Christ.
Oui, c'est très vrai. Je recommande donc aux auditeurs de se référer au début de la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 1, et ils verront combien saint Paul offre toutes ses souffrances pour le bien de l'Église. C'est ce qu'on appelle la réversibilité des mérites.
Merci, frère Edouard.
À bientôt.